Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je voudrais, à mon tour, commencer par adresser tous mes remerciements aux organisateurs pour m'avoir convié à ce superbe colloque. Je crois que, comme le professeur Bayenzina, j'ai eu le sentiment de beaucoup apprendre déjà ce matin. Et c'est par ailleurs toujours une joie de retrouver nos collègues japonais dont j'avais eu le plaisir de faire la connaissance à Nanterre il y a quelques années et de retrouver ensuite à Hiroshima. Alors, je vais donc traiter en effet de la révision formelle et des changements informels en France. La France et le Japon, je ne vous apprendrai rien, ont en commun de garantir ou de s'efforcer de garantir une certaine pérennité au pacte constitutionnel. Pour ce faire, ces deux ordres juridiques soumettent la révision formelle de la Constitution à des conditions de forme et de fond relativement contraignantes, sans qu'elles interdisent pour autant l'adaptation aux évolutions de la société. L'exercice du pouvoir de révision est donc limité notamment par la répartition de ce pouvoir entre diverses autorités. Le bicamérisme inégalitaire, par exemple, cède la place en matière de révision constitutionnelle. En France, comme au Japon d'ailleurs, toute révision constitutionnelle suppose l'accord préalable de chacune des assemblées et il n'est pas question de laisser, comme en matière de loi ordinaire, le dernier mot à la Chambre basse. Ainsi, en vertu de l'article 89 de la Constitution de 1958, article unique d'un titre 16 intitulé « De la révision », le projet de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques, avant d'être, au choix du président, soumis à ratification par voie de référendum ou par les 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux assemblées réunies à Versailles, en congrès. Le Japon, quant à lui, impose des conditions plus strictes encore à la révision de sa constitution, puisqu'en vertu de l'article 96, cette fois, le projet doit recueillir l'approbation des 2/3 des membres de chacune des chambres du Parlement, avant d'être, cette fois, obligatoirement soumis au référendum. Toutefois, si les constitutions de France et françaises et japonaises ont en substance le même âge, 61 ans aujourd'hui même pour la constitution française, 73 ans, je crois, pour la constitution japonaise, le texte français a subi 24 révisions formelles depuis 1958, tandis que son alter ego japonais, on l'a déjà souligné ce matin, n'a jamais été révisé. La stabilité du texte constitutionnel japonais s'explique non seulement pour des raisons juridiques, l'existence de ce processus de révision contraignant, mais aussi pour des raisons politiques. L'attachement du peuple à sa loi fondamentale, conçue comme une charte des droits, plus que vue sous son aspect institutionnel, et un attachement plus particulier sans doute à son élément le plus emblématique, l'article 9, qui a constitutionnalisé le désarmement unilatéral. Le Japon se trouve dans une situation paradoxale d'un pays dont la constitution n'a jamais fait l'objet d'une révision, alors même qu'au-delà de la question de l'article 9, la contestation globale de la constitution, et nous l'avons un peu vu ce matin, y est parfois forte. On comprend donc que dans ce contexte, la pratique ait pu s'affranchir du texte constitutionnel, comme en témoigne la liberté qui a été prise avec l'article 9 de la constitution, lorsque le Japon a recréé progressivement une armée puissante, nonobstant cet article pacifiste. Mais je laisserai évidemment au professeur au-dessus, à mon collègue qui est évidemment beaucoup plus au fait que moi du contexte nippon, le soin de déterminer si cette pratique, ou d'autres encore, ont pu engendrer un changement informel de constitution, de la constitution japonaise de 1946, pour me concentrer plus précisément sur l'ordre juridique français. Car en effet, même sous l'égide d'une constitution sujette à révision régulière, la mutation constitutionnelle peut être le fait d'un changement informel. Cette mutation constitutionnelle, Manon Altouet-Boussac, s'inspirant de Jelinek, dans sa belle thèse consacrée précisément au changement constitutionnel informel, définit ce changement constitutionnel informel comme, je cite, un changement dans la signification normative de la matière constitutionnelle, intervenu sans que la procédure de révision constitutionnelle ait été utilisée, ce qui implique corrélativement que le texte constitutionnel n'a pas été modifié. Le phénomène de ce fait pose un problème spécifique dans les systèmes dotés, comme les nôtres, d'une constitution écrite, puisqu'il tend à remettre en cause précisément cette idée même d'une fondation constitutionnelle, écrite et pérenne. On comprend dès lors que le normativisme puisse peiner à saisir le changement constitutionnel informel. Dès lors que l'on considère que la validité d'une norme constitutionnelle est subordonnée à l'usage de la procédure de révision prévue par la Constitution, le changement informel est au mieux considéré comme un simple fait, au pire comme une violation de la Constitution. À l'inverse, d'un point de vue plus réaliste ou d'un point de vue réaliste, toute interprétation du texte constitutionnel s'apparente à une réécriture de celui-ci, et la Constitution est donc, je simplifie un petit peu, constamment l'objet de changements constitutionnels informels. Ce qui est intéressant, c'est que l'existence de positions aussi divergentes, situées aux antipodes du spectre doctrinal, montre bien la difficulté qu'il y a à saisir le droit effectif, c'est-à-dire le droit tel qu'il est, tel qu'il se transforme dès lors que la politique, qui est elle-même une activité normative, productrice de valeurs, de projets, d'institutions, de règles, et bien dès lors que la politique n'a de cesse de produire des réalités qui dépassent toujours les formes juridiques préétablies. Or, ce paysage se complexifie encore dès lors que l'on s'efforce de saisir les éventuels liens qui unissent procédures formelles de révision et changements informels de constitution ou de la constitution. Il est fréquemment soutenu, par exemple, que les mutations constitutionnelles informelles trouveraient leur origine dans la trop forte complexité de la procédure de révision. Alors ici, évidemment, le cas japonais apparaît emblématique, avec notamment l'interprétation qui est faite de l'article 9 par le bureau de législation du cabinet, dont le professeur Yamamoto a beaucoup, sur lequel le professeur Yamamoto a beaucoup écrit. Et cela semble être l'illustration de cette règle, c'est-à-dire que dans un ordre juridique où la révision serait très difficile, il y aurait plus facilement des changements constitutionnels informels, cela apparaît assez logique. Cet argument est d'ailleurs souvent invoqué également à propos de l'article 5 de la Constitution américaine, qui subordonne la révision constitutionnelle à la délicate ratification du texte par les trois quarts des États. Et pourtant, l'histoire constitutionnelle française, plus particulièrement, semble montrer à foison qu'il y a une sorte d'autonomie, d'indifférence du changement informel à la rigidité constitutionnelle. Entre révision formelle et changements informels, en effet, la dissociation est fréquente, même si elle ne saurait être considérée, je crois, comme systématique. Tels seront, Monsieur le Président, les deux axes de notre intervention. Révision formelle, changements informels, la fréquente dissociation, tel sera mon premier point. La plupart des altérations majeures qui ont affecté la Constitution de la Ve République, on le sait, furent le résultat d'un processus formel de révision. Toutefois, tel ne fut pas le cas, loin s'en faut, de tous les changements que l'ordre constitutionnel français a pu connaître. Tout d'abord, Le changement via la révision, c'est grosso modo le cas le plus connu. En France, en effet, on a très longtemps changé de constitution. Maintenant, il est beaucoup plus fréquent de changer la constitution. Et ce matin, nous avons vu une députée qui nous a expliqué les tenants et aboutissants du projet à venir, si tant est qu'il soit adopté. Depuis 1958, en effet, la France a connu 24 révisions constitutionnelles. 22 de ces révisions ont été faites en application de l'article 89. Et parmi elles, 21 ont été ratifiées par le Congrès, une seule par référendum, il s'agissait en l'occurrence de celle d'octobre 2000, relative à la réduction de la durée du mandat présidentiel. Il en résulte que la Constitution sous laquelle nous vivons aujourd'hui, et que l'on dit être la Constitution du 4 octobre 1958, n'est plus exactement celle de 1958. le président de la République, vous le savez comme moi, est dorénavant élu au suffrage universel direct pour 5 ans seulement. Le contrôle de constitutionnalité s'est ouvert à la saisine de la minorité parlementaire, puis à une saisine, puis n'est plus limitée au seul contrôle a priori. Le statut pénal du chef de l'État, comme celui des ministres ou encore des parlementaires, ont été largement réécrits. L'Union européenne s'est vue reconnaître un titre, un long titre 15 qui n'existait pas dans le modèle initial. La République est décentralisée, elle sera peut-être communautarisée plus tard. Le Parlement a compétence sur le budget social, le champ du référendum de l'article 11 a été étendu, etc., etc. Je pourrais bien évidemment multiplier les exemples. Et à cet inventaire à la Prévert, nous pourrions ajouter nombre d'illustrations tirées notamment de la dernière révision en date, celle du 23 juillet 2008, qui par son ampleur cherchait, sans y être sans doute totalement parvenue, à rééquilibrer les institutions qui faisaient la part sans doute trop belle à l'exécutif. Au total, sur les 92 articles que comptait la Constitution française en 1958, 47 ont été modifiés, 15 abrogés et 28 ajoutés. Ces chiffres, toutefois, même impressionnants, ne doivent cependant pas faire illusion quant à la facilité qu'il y a en France à réviser la Constitution. En effet, seule une forte volonté politique permet de surmonter les obstacles à la révision constitutionnelle telle qu'elle est prévue à l'article 89. Cette révision nécessite au minimum l'accord du président de la République et des deux chambres, de sorte que l'opposition du Sénat suffit à la faire échouer. Il n'existe en effet aucun moyen de forcer l'accord entre députés et sénateurs. Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, c'est évidemment possible. L'article 45 de la Constitution est riche d'outils à cet effet. Cet article 45 permet notamment, dans l'hypothèse d'un désaccord persistant entre les deux chambres, de réunir une commission mixte paritaire, puis offre les moyens au gouvernement de demander à l'Assemblée nationale de statuer en dernier ressort. Rien de tel, évidemment, dans le cadre d'une procédure de révision, puisque la possibilité même de réunir une CMP a été exclue par la pratique, de manière d'ailleurs juridiquement contestable. Il en résulte que plusieurs projets de révision, même si les révisions ont été fréquentes, et bien plusieurs projets de révision ont d'abord connu l'échec, faute d'avoir été adoptés en termes identiques par les deux assemblées. On sait d'ailleurs que c'est précisément, peut-être, enfin que c'est en tout cas en partie cette résistance sénatoriale qui explique le retard pris par l'actuel projet de révision. Ce droit de veto, qui est remis à une assemblée insusceptible d'être dissoute, demeure tout de même contestable. Tout d'abord, il réserve à une minorité, à une tendance politique, celle qui détient habituellement la majorité au Sénat, la possibilité de faire échouer, de manière discrétionnaire, toute velléité de révision. Ensuite, ce droit de veto, on le sait, favorise une tendance au marchandage, le Sénat n'hésitant pas à monnayer parfois assez chèrement son soutien. Enfin, il a pu encourager la tentation pour l'exécutif de contourner cette voie parlementaire et cet obstacle sénatorial, en passant par l'expédient de l'article 11, qui permet au président de la République de soumettre à référendum, sans passer par le Parlement, un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Tel fut le cas, évidemment, en 1962, avec succès, et en 1969, avec cette fois beaucoup moins de succès. Toutefois, signe qu'il ne suffit là encore d'assouplir la procédure de révision constitutionnelle pour éviter les changements informels, cette relative facilité à réviser ne prémunit pas du changement sans la révision. Le changement sans la révision est en effet fréquent. Apparaît symptomatique, par exemple, de l'indifférence du changement informel au degré de rigidité constitutionnelle des phénomènes qui sont apparus sous la Troisième République. La souplesse de la loi, des lois constitutionnelles de la Troisième République n'a pas empêché, par exemple, une transformation très nette du régime parlementaire en dehors des formes prévues à cet effet. On sait qu'à la suite de la crise politique provoquée par la volonté de McMahon de révoquer le président du Conseil, on a assisté au passage, en dehors de toute modification du texte constitutionnel, au passage d'un parlementarisme dualiste à un parlementarisme moniste. Il en résulta d'ailleurs un mouvement de retrait du président de la République et une forme, une quasi-désuétude du droit, de l'exercice du droit de dissolution qui était pourtant prévu par les textes constitutionnels. Il s'agissait d'un exemple tiré de la Troisième République, mais plus près de nous, on pourrait trouver également des illustrations d'un phénomène similaire. On sait combien la pratique de la Ve République, par exemple, en faisant prédominer la légitimité présidentielle sur la légitimité parlementaire, a introduit une forme de responsabilité politique individuelle du Premier ministre devant le président de la République, le chef de gouvernement pouvant être contraint à la démission, nonobstant la lettre de l'article 8 de la Constitution. Là encore, nous pourrions multiplier les exemples, mais l'essentiel est, je crois, établi. Il y a le plus souvent une sorte d'autonomie, des changements informels à l'égard des révisions formelles. Toutefois, cette absence de lien lui-même n'est pas la règle, puisque la révision formelle peut s'accompagner, parfois même être précédée, de changements informels. Révision formelle, changements informels, la liaison est possible en effet, et ce sera là mon second point. Le changement informel peut, dans certaines hypothèses, être le préalable ou la conséquence, c'est parfois difficile à analyser, d'une révision formelle. Certaines révisions constitutionnelles parviennent même, au-delà de leur aspect un peu technique, circonscrit, parviennent même à imprimer des mutations constitutionnelles majeures. Cet effet un peu systémique, qui dépasse largement l'objet de la révision constitutionnelle, sera ici désigné par le terme non pas de changement informel, mais d'évolution informelle pour bien montrer qu'elle s'inscrit dans le temps. Le changement informel, tout d'abord, peut être le préalable ou bien la conséquence d'une révision formelle. L'exemple le plus connu dans l'histoire de la Ve République est bien entendu, là encore, l'usage de l'article 11 pour réviser la Constitution. Il a pu être soutenu à cet égard que les précédents de 1962 et de 1969 auraient ouvert une seconde procédure pour réviser la Constitution. Alors on fera ici l'impasse, pour des questions de temps, de l'épineuse question de la licéité d'un tel usage, puisqu'en tout état de cause, la pratique ratifiée par le peuple lors du référendum de 1962 témoigne de la possibilité d'user de l'article 11. Il y aurait donc eu, dans cette hypothèse, un changement informel de la Constitution de 1958 qui aurait finalement dédoublé le mécanisme de révision constitutionnelle, article 89, mais aussi article 11. Ce qui est plus difficile, c'est de déterminer à quel moment ce dédoublement est intervenu. Fût-ce au moment où le général de Gaulle a décidé de procéder à la révision de l'article, à la révision via l'article 11, de sorte que le changement informel apparaîtrait ici comme le préalable à la révision formelle dont il forme le support, ou est-ce plus tard, une fois que les jeux furent faits, lorsqu'à l'issue du référendum largement victorieux du 28 octobre 1962, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur les lois qui, je cite, « adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ». Selon cette seconde hypothèse, le changement informel aurait été non plus un préalable, mais une conséquence de l'aboutissement de la révision. Référendum et révision auraient alors reposé sur une indéniable violation de la Constitution. Mais la révision formelle peut également rayonner bien au-delà de son objet, parfois un peu circonscrit, et produire une sorte d'effet systémique. L'évolution informelle peut en effet être peut-être un effet de la révision formelle. C'est ce que je voudrais montrer dans un dernier point. Certaines révisions parviennent, bien au-delà de leur aspect technique, à imprimer des mutations constitutionnelles majeures. C'est pour cette raison, parce que je trouve qu'ici il faut s'inscrire dans un temps plus long, dans un temps de longue durée, que je parlerai plus volontiers d'évolution informelle plus que de changements informels. On retrouve là, finalement, la capacité de la pensée constitutionnelle à s'interroger, ou plus exactement à s'arrimer au débat sur la fin de l'histoire, ce célèbre débat, qui incite parfois les constitutionnalistes à faire leur la croyance en un sens de l'histoire. L'idée ici serait que les techniques, les révisions techniques participeraient à un phénomène de standardisation des constitutions qui s'opérerait par l'adoption et par le perfectionnement progressif de la démocratie pluraliste. Dans un article publié sur Ius Politicum, Jackie Hummel s'attache à définir avec précision ce phénomène de standardisation de la Constitution. Ces éléments, les éléments de cette évolution vers une constitution, si vous voulez, une démocratie pluraliste, ces éléments seraient les suivants: existence d'une constitution dont la primauté est effectivement assurée par une procédure de révision spécifique et par un contrôle de constitutionnalité des lois, suffrage universel libre, protection des droits de l'homme, état de droit, séparation des pouvoirs, ouverture du droit interne au droit international. Il en résulte qu'il conviendrait de comprendre les mutations et inflexions, même les plus marquées, de l'ordre constitutionnel, comme étant les aspects d'un seul et même processus. On retrouve un peu, d'ailleurs, cette perspective téléologique, il me semble, dans une partie de la doctrine américaine, ainsi pour Dworkin ou Bruce Ackerman. L'histoire constitutionnelle américaine témoignerait, au-delà des moments de révision formelle, d'un progrès vers la démocratie libérale. Alors je simplifie bien évidemment, mais il n'empêche qu'une partie de la doctrine française semble se rattacher un peu à cet état ou à cette manière de voir les choses et considère que l'un des signes de la pérennité et de la réussite de la Ve République serait dans le fait qu'elle serait parvenue via des révisions constitutionnelles formelles, techniques, parfois circonscrites, 1974, dans une certaine mesure, 2000, 2003, 2008, etc., a imprimé des mutations constitutionnelles majeures permettant l'avènement de l'état de droit. Alors, sans être dupe, bien évidemment, du triomphe final de ce modèle constitutionnel qui peut et qui est parfois largement remis en cause, reste aux constitutionnalistes à faire le tri, d'une part entre changements informels mais pérennes, et de l'autre, entre le simple changement qui n'est qu'un accident de l'histoire, qui est beaucoup trop éphémère et circonstanciel pour s'inscrire dans la trame constitutionnelle. La tâche est évidemment délicate. Je vous remercie.